Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Morren.
Salut tout le monde.
De Pixel.
Salut.
D'ATH.
Salut.
Et... Ah non, mais je vous assure, hein, l'apocalypse, c'est vraiment demain. Hein. Mamie l'ami.
Salut tout le monde.
C'est la loi des séries, faites gaffe.
Ah non, mais là, je sais pas ce qui se passe. Deux podcasts avec mamie en moins d'un mois, il se passe un truc. Hein. Un alignement des planètes, je sais pas, mais il se passe un truc. Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons du succès du Kickstarter de Canard PC, nous enchaînerons ensuite sur les cheaters de The Division, nous parlerons également du succès tonitruant de Overwatch, nous enchaînerons ensuite sur la résurrection du multi de Dark Souls 1, nous parlerons de Conan le barbare qui revient en jeu de survie. Et enfin, pour terminer, du côté de l'actualité, nous parlerons de l'annonce officielle de la PlayStation 4 Neo. Sans oublier notre jeu du moment, ATH en a déjà parlé dans son émission Point Final, mais on va en parler de manière plus étendue. Ici, c'est Uncharted 4. Allez, c'est parti, nous allons donc commencer avec le Kickstarter de Canard PC. Alors, on l'évoquait la semaine dernière, Canard PC a décidé de se lancer dans l'inconnu, n'est-ce pas ? Ils ont lancé un Kickstarter pour financer quoi ? Pour financer un site de presse dédié aux jeux vidéo 100% payant avec 0% pub. Et c'est un succès tonitruant, je crois qu'on peut dire ça, parce que oui. En 5 heures, ils ont réuni les 60 000 euros qu'ils avaient demandé. En un tout petit peu plus de 24 heures, ils avaient doublé la somme. Et là, ils sont à 157 000 euros. Voilà, voilà, voilà. Je ne vous cache pas ma satisfaction, n'est-ce pas ? Vous savez ce que j'en pense, hein ? On en a parlé la semaine dernière avec ATH et Ben. Mais en l'occurrence, je voulais la réaction de mes comparses ici présents, qui n'étaient pas là la semaine dernière. Notamment toi, Pixel, par exemple, parce que toi, je sais que l'indépendance de la presse, c'est un sujet qui t'intéresse. Et pour le coup, je pense que le fait de pouvoir se dire que, en tout cas... avoir un site 100% payant sans pub, ça peut exister sur Internet. Ouais, ça change pas mal la perspective là déjà.
Effectivement, bah comme tu as dit, moi ça m'intéresse. Enfin, je suis très attaché au fait que les journalistes de jeux vidéo, en tout cas en France, soient vraiment indépendants, mais indépendants financièrement de l'argent des grands éditeurs tout puissants capitalistes, n'est-ce pas ? Donc, bah c'est normal hein, vu que je fais partie du collectif des joueurs militants de jeux vidéo, c'est pas pour rien parce que nous on a envie de faire, on a envie de promouvoir justement une certaine presse de jeux vidéo, qu'elle soit papier ou internet ou numérique, mais indépendante des éditeurs. Et là, ce Kickstarter, je l'ai suivi un peu de loin ces derniers jours, mais bon, ça prouve que ça peut marcher. Bon, après, c'est Canard PC, on connaît leur... comment dire, ils ont une grosse communauté derrière eux.
C'est un magazine papier à la base, donc c'est des gens qui sont prêts à payer, déjà. Enfin, ils ont un public déjà qui est prêt à payer, en fait. Est-ce que ça marchera pour n'importe quel autre site de presse, par exemple ?
J'ai envie de dire, presque maintenant avec le recul, on peut dire que ça ne pouvait que marcher, puisque ceux qui ont backé le Kickstarter, ce sont grosso modo ceux qui achetaient déjà le magazine Canard PC.
Ouais. Ou alors les connards comme moi qui achetaient le magazine mais qui étaient un peu embêtés parce que en fait ils ont pas de place chez eux pour stocker le magazine, donc du coup avoir un site internet, ils sont contents quoi.
Et ils sont très contents, surtout que bon, Canard PC c'est quand même une ils ont quand même une tranche d'âge de lecteurs un peu plus âgé que tout le reste. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont des gens qui travaillent, qui sont plus âgés, qui ont de l'argent à dépenser, j'ai envie de dire, ou à entre guillemets jeter par les fenêtres, hein, c'est une façon de parler. Et autrement dit, pour un Kickstarter, de l'argent à jeter par les fenêtres, c'est intelligemment. Voilà, là tu payes pour des gens qui te disent direct, dès le day one, ce sera full payant. Mais au moins vous aurez pas le désavantage des sites gratuits, à savoir de la news clickbait, quoi. Avec des photos de babes de l'E3, qui va bientôt arriver d'ailleurs.
Alors après, il paraît qu'elles ont été bannies l'E3, mais je n'y suis pas.
Bah alors, elles reviendront, t'inquiète. le top 10 des plus belles babes sur certains sites qu'on ne nommera pas, mais...
Si seulement c'était qu'un top 10.
Ils l'ont fait pendant 15 ans, maintenant que c'est plus considéré comme à la mode. Bon, ils se mettent de côté, mais ça reviendra, t'inquiète, ça reviendra. Mais juste pour revenir au Kickstarter de Canard PC, on s'approuve que eux, ils ont réussi là où, ben, Gameblog, par exemple, ils ont pas réussi. Ils étaient d'abord gratuits, et ensuite ils sont allés au payant. Et c'était une erreur, il fallait qu'ils soient payants dès le départ, dès leur création en 2007 ou 2006, je sais plus trop.
Regarde Gamekult, ils sont bien en train de faire la transition, là.
Et ils sont en période de transition,
ouais,
et
mais
ça
tu
a
vois,
l'air
Gamekult,
de marcher
par
plutôt
exemple,
moyennement pour eux.
Le premium, par exemple, chez Gamekult, ne finance que les contenus premium, ça ne finance pas la rédaction, il faut savoir ça.
Oui, bien sûr.
Là, quand même, on parle d'un Kickstarter pour financer un site qui ne marche que par le paiement des lecteurs, en fait. Enfin, c'est... Franchement, alors oui, effectivement, comme dit Pixel, après coup, on peut refaire le match, tu vois, et dire que c'était une évidence, machin. Mais quand même, dans le paysage de la presse vidéoludique en France, c'est un cataclysme, ce qui vient de se passer, là. Quand même, quoi. Merde. Il y a 2 ans, on aurait dit, il y a quelqu'un en France qui va lancer un site 100% payant et il va récolter plus de 150 000 balles. Personne n'y aurait cru. Mais personne. Tout le monde aurait dit, mais tu rigoles, les internautes, ils sont pas habitués à payer, jamais ils paieront, ça ne marchera jamais. Bah voilà, ça marche. Tu vois, le fait justement que t'aies plusieurs initiatives comme ça, alors d'un côté, t'as Gamekult qui a une espèce de modèle freemium hein, entre les deux, là, t'as Canard PC qui est 100% payant, puis t'as des initiatives comme Extra Life, etc. Le fait, tu sais, que... on ouvre les possibles comme ça au niveau de la presse française, ben moi, enfin, je suis très content parce que au moins on aura une pluralité au niveau de la presse qu'on n'avait pas avant, quoi. Avant c'était le gratuit et point barre. Maintenant on a le choix.
Ouais, enfin on a le choix, on a un choix pour l'instant, un choix payant. Après pour si on revient à Gamekult, ils sont en période de transition, mais cette transition à mon avis elle va durer jusqu'à ce que ils se séparent totalement de la grosse boîte conglomérat qui est au-dessus d'eux.
Ouais, alors se débarrasser de TF1, ça va être compliqué.
Ah ouais, voilà. Donc le seul moyen pour eux, ça serait de racheter le nom de Gamekult et de partir en solo, ou de quitter Gamekult et de recréer un site que ce soit full payant dès le départ.
Oui. Je serais à leur place. Je sais pas si j'aurais les couilles de le faire ça, tu vois, parce que.
Bah, Canard PC, ils l'ont eu, hein.
Oui, ils ont fondé leur magazine, mais ils ont galéré au début. Mais là, si tu veux. Ça fait des années que le magazine marche, c'est un des magazines les plus vendus en France. Je veux dire, techniquement, lancer un Kickstarter pour financer un site internet, fondamentalement, justement, là, ils ont pas pris de risque. Ils ont dit, ils ont trouvé le moyen idéal pour tester le marché sans prendre de risque, là.
Surtout que c'est un site internet qui, rappelons-le, n'est qu'à 90% le relais des articles qui sont dans le papier. Il y aura pas ou très très peu de contenu inédit à Canard PC Online. Et au final, le Kickstarter, à l'heure actuelle, il n'est là que pour financer l'infrastructure de ce relais éditorial, qui sera payant, évidemment, parce que... Alors, tu parlais tout à l'heure, au final, les contributeurs, ce sont que les gens qui lisent Canard PC et qui y sont abonnés. Pas forcément. Moi, je suis pas abonné à Canard PC. J'ai contribué à ça parce que je suis attaché à Canard PC, à leur esprit. Par contre, je me suis jamais abonné parce que j'ai un problème de taille qui est que j'ai 24 mètres carrés à Paris et que je ne peux pas avoir des tas de magazines qui s'entassent chez moi. Et j'ai toujours eu ce problème-là avec le papier. Et du coup, cet abonnement numérique, pour moi, c'était le meilleur des mondes, quoi. J'aurais enfin accès à Canard PC H24 et en plus, je leur donne un petit peu mes biftons. Donc, pour moi, c'était parfait.
J'espère vraiment quand même qu'ils essaieront au fur et à mesure de faire quelque chose de différent entre la version papier et la version internet.
Moi, j'aimerais bien. À savoir que, du coup, en ayant dépassé la barre des 150 000 euros, je crois, récoltés, le Kickstarter de Canard PC est devenu le premier financement participatif, tous médias confondus. Et ce, c'est quand même plutôt cool. Et d'ailleurs, dans une des deuxièmes notes de campagne, en fait, ils disaient qu'ils étaient actuellement en train de réfléchir à ce qui était possible de faire en termes de stretch goals.
Alors après,
qui soit pas délirant, hein, bien
ouais,
sûr.
Ouais, parce que moi je suis pas très fan des stretch goals, hein, vous le
mais
savez.
Justement, eux non plus, et ils essaient de faire en sorte de réfléchir à ça à tête reposée, en fait.
Voilà. Bon, Mordrain, tu vas garder la parole, hein, oui. Puisque tu aimes l'ouvrir, n'est-ce pas? Tu vas nous parler de The Division, un sujet oui. Qui te passionne, je crois.
Ah mais je suis le niveau de hype est over 9000 là. Donc alors The Division. petit succès de la part d'Ubisoft, avait et a toujours un gros problème avec les tricheurs sur son jeu, et notamment sur PC, et avait pour stratégie en fait de les bannir pendant 15 jours après leur première offense, leur première instance de cheat, et ils ont décidé d'emboîter le pas à Blizzard et Overwatch en fait, parce que sur Overwatch en fait maintenant les cheaters, quand ils trichent une fois, ils sont permaban. Et ben The Division fait exactement la même chose maintenant. Sur 30 000 comptes qui ont été identifiés comme des tricheurs, il y en a déjà 3800 qui ont été bannis, ad vitam aeternam. C'est le deuxième gros éditeur qui choisit de perdre des clients qui sont toxiques pour son jeu full multijoueur, quoi.
Alors, moi, juste une remarque, si ça marche et qu'ils arrivent vraiment à identifier les tricheurs en étant 100% sûr que c'est des tricheurs,
ouais,
y a pas de souci. Par contre, j'espère vraiment que ça marche. Parce que le mec qui a payé son The Division 60 boules et qui se fait bannir pour une liaison X ou Y alors qu'il n'est pas tricheur, je vous rappelle récemment, on a eu des cas sur Dark Souls 3 par exemple où il y a des gens qui se sont fait bannir alors que bon, en fait, c'est pas vraiment qu'ils avaient triché, c'est juste qu'on leur avait filé des objets qui étaient cheatés.
Ouais, il y a ça et il y a aussi la limite de l'exploitation d'un bug. Mmh. Il y a eu beaucoup ça dans The Division au début. Est-ce que tu peux véritablement épingler les gens qui font du bug exploit comme étant des tricheurs?
Oui, par exemple.
C'est ça aussi la limite.
Qu'est-ce que la triche?
Exactement.
Définition du mot triche.
Vous avez 4 heures.
Après, ça vient aussi un peu de leur faute, quoi, j'ai envie de dire. Ubisoft, sur le développement du jeu, en fait, la plupart des gens qui exploitent les bugs, il faut savoir, ils arrivent à les exploiter parce que le serveur est côté client. Et ça te permet, de, par exemple, de dupliquer un certain nombre d'objets, de looter plus d'objets, ou bien d'avoir des armes qui font plus de dégâts, etc. Et ça, ils exploitent en fait en coupant leur connexion de chez eux à un petit moment. Et une fois que la connexion en fait se reconnecte, ça dure une microseconde. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à tricher. Ou bien il y avait aussi un bug avec un bouclier où t'étais quasiment invincible quand tu jouais en multijoueur avec. Parce qu'il y avait un certain bug en fait qui te permettait d'avoir un bouclier et en même temps d'avoir une arme à la main, alors que normalement tu pouvais pas avoir les deux en même temps, et justement ça déséquilibre le gameplay, et ça vient du fait que le jeu à la base a été mal codé de leur part en fait.
Mabi, que pense le développeur
de la triche hein.
Oui.
En général non c'est un problème. Encore une fois, je reprécise pour les auditeurs qu'on dit développeur, mais pour l'instant je travaille dans le mobile. C'est pas forcément les mêmes problématiques. Pour
ouais,
le
mais disons que tu es, enfin, quand même, quoi, c'est des études,
ah
c'est
oui, voilà,
un projet professionnel, voilà.
Non, disons, ouais, le souci actuel de, comment dire, de la triche, comme disait ATH, ça dépend beaucoup des structures serveurs et clients. On pourra jamais vraiment empêcher la triche. Par contre, après, c'est vrai que pour les jeux multijoueurs, Overwatch par exemple, qui n'est que multijoueur, c'est facilement traquable, et ça m'étonnerait très franchement, enfin, pour citer l'exemple, pour ce coup-ci, c'est Riot, mais c'est très rare qu'il y ait des injustices à ce niveau-là. D'accord. Ils ont des équipes qui font que ça, H24, vérifier si la triche, c'est vraiment de la triche, en revoyant des replays ou des machins comme ça, en analysant les données serveurs qui sont envoyées par les joueurs, etc. Donc je pense pas que ce soit un danger. Maintenant, c'est de plus en plus le cas, comme disait Mordrain tout à l'heure, ça a été pas mal lancé par Overwatch, là, la nouvelle vague, on va dire, de le permaban direct, et d'après les données qui tombent par à droite à gauche, ça a l'air quand même de pas mal dissuader... les joueurs, quoi.
Ouais, mais par exemple, moi, je jouais beaucoup à GTA 5 Online. Et j'ai arrêté de jouer parce qu'au bout d'un moment, il y avait les tricheurs qui sont arrivés. Et les mecs, ils faisaient des bugs ou bien... Genre, ils explosaient tout autour d'eux. Ils avaient de l'argent illimité ou bien ils étaient invincibles. Enfin, ce genre de triche qu'on connaît tous. Et bah moi, ça m'a cassé mon délire. Et surtout qu'il y en avait de plus en plus. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné les serveurs. Parce que je voulais plus jouer avec ces gens-là. Ça serait bien qu'ils trouvent une solution vraiment concrète. Mais comme a dit Tyran... Le permaban, je trouve ça un petit peu trop sévère.
Bah après, moi, encore une fois, si ça marche, si c'est vrai, on est certain que les mecs qui sont bannis ont cheaté, très bien. Mais encore une fois, je cite l'exemple de Dark Souls 3. Vraiment, il y a des gens qui n'ont pas triché, ils ont ramassé juste des objets et qui sont fait bannir parce qu'ils avaient ramassé des objets qui, eux, étaient cheatés, par contre.
Donc, ce qu'ils devraient faire, je pense qu'ils devraient quand même mettre un avertissement d'abord en disant « Bon, bah, on t'a repéré en tant que tricheur. » Si tu continues, la prochaine fois, on te bannit définitivement, quoi. Il faudrait peut-être qu'ils mettent un juste au moins un avertissement avant de bannir direct.
Ouais, quoi. Peut-être un avertissement, oui, t'as raison. Parce que, après, je pense que, si t'es certain de te faire bannir, que t'es quand même averti une fois avant, peut-être que ça pourrait faire revenir certains dans le droit chemin, dirons-nous.
Voilà, et au moins, ça te, ils te prennent pas en traite, on va dire, quoi. C'est, on t'a averti une fois, t'as fait le con, la deuxième fois, bah, là, je suis d'accord pour que la sanction tombe, et puis, c'est fini, quoi. Tu vas pas faire chier les gens toute leur vie, faut laisser au bout d'un moment les gens jouer comme ils ont envie au jeu, quoi. Et pas nuire à leur expérience de gameplay, quoi.
Tout à fait. D'ailleurs, on parlait d'Overwatch. Alors, bon, mamie est morte, là. Il faut qu'on parle. Sérieusement. Parce que moi, si vous voulez, il m'arrive une expérience très spéciale au boulot en ce moment. J'ai des collègues qui parlent tout le temps d'Overwatch. Tout le temps d'Overwatch. Bon, c'est des gens qui jouent aux jeux vidéo, mais je veux dire, comparé à des gars comme nous qui passent leur vie là-dessus, pas tant que ça, finalement, tu vois. C'est la première fois que je vois des gens obsédés par un jeu multijoueur comme ça. Des gens qui sont a priori pas plus attirés par la question des jeux multi que ça. Et récemment, on a appris en plus que, cerise sur le gâteau, le jeu s'était écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires, super gros succès, etc. La question que je me posais, moi, si vous voulez, c'est parce que, bon, vous voyez, moi, j'écoute mes collègues parler, et je me dis, bon, ce qu'ils disent, finalement, c'est des sensations que t'as sur n'importe quel jeu multi. Le plaisir du beau jeu, tu vois, c'est quelque chose qui est commun à tous les jeux multijoueurs. Mais là, je sais pas pourquoi, ça touche en plus des gens qui, a priori, ne sont pas plus attirés par le jeu multijoueur que ça. Et je me demandais, messieurs, mamie, Morane, mais pourquoi ? Pourquoi jouez-vous à ce jeu ? Pourquoi est-ce qu'il marche autant ? D'où vient ce phénomène, en fait ?
Bon, je vais parler parce que j'en suis à un peu plus de 50 heures, je crois, dessus.
Non,
merde. Merde.
Mais non, sans rire, parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent, oui, bon, Overwatch, c'est grosso modo Team Fortress 2 avec des graphismes un peu plus mis à jour et puis il a pas de Blizzard. Et je crois en soi que ça suffit, on va dire, disons qu'Overwatch, en fait, bénéficie d'une campagne virale, mais ce coup-ci bien faite.
D'accord.
Je dis ce coup-ci parce que il y a surtout dans le cinéma en ce moment les campagnes virales ça marche pas,
oui.
Bien. Mais Overwatch, ouais, il y a ça, il y a le côté Blizzard de toute façon va de plus en plus, justement je parlais du cinéma, c'est pas pour rien, vers le cinéma et donc implémente de plus en plus de choses. Ben ils ont racheté DreamWorks si je dis pas de bêtises. Enfin pas ils ont pas racheté DreamWorks, pardon, ils ont engagé les anciens DreamWorks et ça se sent dans le sens où bah justement, ils ont maintenant le savoir-faire nécessaire pour avoir de belles cinématiques, encore plus belles qu'avant, etc. Parce que c'était déjà un peu leur marque de fabrique. Et ça, je pense, a énormément aidé. Parce qu'en fait, quand tu joues à Overwatch, t'as toujours en arrière de ta tête les courts-métrages là qui sont sortis.
Oui.
Il y en a eu 4, 5 si on compte le tout premier.
Plus tu m'en parles, plus. Mais en fait, ça ressemble vachement à Team Fortress. Hein. Parce que tu sais, quand tu parles des courts-métrages d'Overwatch, moi, je pense tout de suite aux courts-métrages de Team Fortress. C'est fou. C'est dingue.
Ah oui, non, mais dans l'idée, c'est là où c'est super intelligent, c'est quand ils ont mis à profit un peu l'esprit du... comment on appelle ça ? Le machinima ?
Oui.
Oui, c'est ça. Ils ont mis à profit cet esprit-là, et du coup, il y a un sentiment d'appartenance qui colle au personnage. Il faut dire qu'aussi, par rapport à Team Fortress 2, il y a tout un lore qui ne sert en vrai strictement à rien, parce qu'en fait...
Qui est même pas présent dans le jeu, en plus.
Bah non. Il y a tout un lore, tout un truc, mais qui... Mais ça, c'est... Là-dessus, Blizzard sont très forts, hein, jouer avec leur lore. C'est que du coup, ben, il y a ce fameux sentiment d'appartenance dont je parlais, qui augmente au fur et à mesure. Les gens s'attachent à des personnages. Moi, je sais qu'il y a certains personnages, je suis nul à chier dessus, mais je vais continuer à les jouer parce que juste, je les aime bien. Et il y a, bah voilà, il y a ce truc-là qui fait que, ensuite, il y a aussi un effet de bouche à oreille monstrueux qui est clairement du, en tout cas, à mon sens, du jamais vu. C'est qu'en fait, comme tu le disais, il y a 7 millions de ventes, mais tout le monde l'a acheté tout de suite. Et du coup, comme c'est un jeu multi, c'est là, en fait, ils ont fait leur pari, tout le monde l'a acheté tout de suite, tout le monde y a joué tout de suite, et tous entre eux. Donc en fait, et suffisait que t'aies un pote qui ait pas le jeu, il voit les 6 autres jouer, il va dire bon bah ça a l'air cool. Donc en fait là c'est un, on va dire un bon créneau qui s'est débloqué pour Blizzard, un plus mauvais créneau qui s'est débloqué malheureusement pour Gearbox, mais qui c'est quoi, c'est Battleborn qui est à peu près,
ouais,
du même,
ouais,
style.
Parce que je connais beaucoup de personnes, enfin qui pour le coup sont des gros joueurs, tu vois, qui adorent Battleborn mais qui sont désespérés parce que ils le préfèrent à Overwatch mais il a pas du tout marché.
Quoi. Ouais non, c'est ça.
C'est quand même triste pour Battleborn parce que enfin Battleborn le jeu a été soldé 3 semaines après la sortie quoi.
Ah ouais mais c'est une catastrophe hein, apparemment.
Ouais non c'est
économiquement c'est un cataclysme je crois.
C'est clair et net quoi, c'est quasiment du jamais vu pour un jeu comme ça quoi. Je pense que c'est vraiment Overwatch qui était en face qui l'a plombé. Mais je pense vraiment que le succès d'Overwatch, il vient du fait que ça soit déjà, de un, Blizzard, donc il a une grosse communauté de joueurs, et de deux, oui. qu'il a aussi rassemblé, en fait, des joueurs, je veux pas être méchant, mais un peu plus casual. Parce que j'ai vu aussi, à la base, quand il y avait les premières bêtas du jeu qui étaient sorties, il y avait beaucoup de personnes qui avaient pu tester le jeu, qui avaient dit, ouais, bah, ça ressemble à Team Fortress, mais ça a pas l'air génial, génial. Et quand il y a eu la release du jeu final, bah tout le monde a changé d'avis, genre je voyais par exemple les youtubeurs la plupart de leurs pages j'ai changé d'avis sur Overwatch, je vous explique pourquoi, et enfin tu vois, ce genre de choses là quoi.
Soit dit en passant, moi j'assume, hein, j'étais persuadé que ça allait se planter ce truc.
Pour être honnête, lors de l'annonce d'Overwatch, je me suis dit c'est un free to play qu'ils essayent de vendre plein pot, ça marchera jamais quoi, mais bon, naïf que je suis.
Tu avais sous-estimé la puissance
non mais là pour c'est bien qu'il soit vendu à 7 millions d'exemplaires. Après, il faut voir si ça il dure sur long terme aussi, parce que c'est bien d'avoir vendu beaucoup, mais après il faut que il y a du contenu qui arrive régulièrement et que les gens continuent à jouer, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui dès le départ ont eu un bon succès. Par exemple, je pense à Titanfall, qui était une exclu PC et Xbox One, et ouais. Il y avait, au début il y avait une communauté tout ça, et au fur et à mesure des mois, bah ça s'est écroulé quoi.
Ouais. Alors sachant que moi il y a quand même un truc qui me pose problème avec Overwatch. C'est qu'un jeu que tu payes 40 balles ou 60 balles, que t'aies des achats in-app dedans, ça me pose quand même un souci. Mais bon.
Alors, justement, tu me fais penser au gros coup de gueule que j'ai personnellement sur Overwatch et Blizzard. Tu l'as dit là à l'instant, il y a une version à 40€, une version à 60€. En tout cas sur PC, sur Battle.net, vous pouvez acheter une version qui est à 60€, la version Origins Edition, et la version standard qui est à 40€. Et cette version standard, si tu sais pas qu'elle existe, eh ben tu sais pas qu'elle existe. Parce que Battle.net fait tout pour la cacher. Sachant que dans la Origin Edition, pour 20€ de plus, vous n'avez que des skins pour les autres jeux Blizzard.
D'accord.
Voilà, donc ça vraiment, je trouve que c'est scandaleux. C'est une pratique commerciale qui est fortement douteuse. Pas bien, Blizzard, pas bien. en dehors de ça, je voulais aussi dire, effectivement, Overwatch, c'est 7 millions en une semaine. Je rappelle aussi que Diablo 3, en une semaine, c'était 6,3 millions uniquement sur PC. Overwatch est sorti le même jour sur PC, Xbox One, j'allais dire Xbox 360 et PS4. Donc voilà, on
oui,
met quand
mais,
même...
Oui, mais Overwatch...
C'est une nouvelle IP.
C'est une nouvelle IP. Enfin, je veux dire, Diablo 3, c'est Diablo, quoi. Enfin,
c'est
dire...
une nouvelle IP, on est d'accord.
Moi, je connais des nouvelles IP qui aimeraient faire ce genre de chiffres, hein, en jeu oui. solo, tu vois.
On est d'accord. Mais, et sur les achats in-app, bon, après, si les gens sont des pigeons, tant mieux pour eux, quoi. Mais les achats in-app ne concernent que les loot crates, donc que vous chopez à chaque fois que vous gagnez un niveau dans le jeu. Ces loot crates qui sont remplis de choses cosmétiques au possible, c'est-à-dire des skins, et encore t'en chopes pas à chaque fois, des tags que tu peux mettre sur la map en début de partie, puisque si concrètement en pleine partie ça ne sert à rien, tu n'utiliseras jamais, et des répliques pour les personnages que les gens utilisent allègrement pour troller. Et c'est tout. Sachant que une loot crate... Enfin, de base, c'est 2 loot crates que t'achètes, c'est 2€.
Ah oui.
Voilà, on est marge supplémentaire voilà, sur un jeu qui est donc vendu de fait 60€, hein, puisque Blizzard pousse à mort pour vendre cette boîte-là. Moi, je trouve ça un petit peu nauséabond. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui achètent. Hein.
Pour moi, en fait, il aurait fallu attendre que le jeu soit gratuit pour que tu fasses ce genre de modèle économique, voilà. Fondamentalement, moi, je suis pas hostile au fait de faire payer pour des items. J'ai payé pour des items sur Dota 2 parce que j'estimais que 200 heures de jeu, ça valait bien quelques euros en items cosmétiques, tu vois.
Mais je suis sûr qu'en plus, Overwatch, s'il était sorti gratos, il aurait très bien marché avec son modèle économique de loot crate. Mais en fait, ils l'ont vendu au prix fort là tout de suite. C'est à mon
avis.
Après,
si ça marche, tu vois, ils auraient tort de se priver.
Oui, oui.
Hein.
Non, déjà, ça marche, donc ils auraient tort de se priver. Mais je pense qu'ils l'ont vendu à un prix de base. c'est aussi pour rentrer dans leurs frais le plus rapidement possible en fait. Parce que autant un jeu comme Hearthstone, qui à mon avis leur a pas coûté des milliards d'euros, il peut se permettre de se rentabiliser avec des ventes d'extensions et de boosters, autant Overwatch à mon avis c'est pas du tout les mêmes valeurs de production. Donc voilà, et sinon pour revenir à ta question première, moi je pense qu'il y a aussi, Mamie parlait de viralité avec le YouTube, mais il y a aussi la viralité réseaux sociaux de base, c'est-à-dire Facebook et Twitter. Moi, depuis que le jeu est sorti, il se passe pas une journée sans que je vois pas 10 vidéos un peu fun de gens qui montrent des phases dans Overwatch. Alors bon, effectivement, moi, mon fil Twitter, c'est quasiment que des gens qui sont intéressés dans le jeu vidéo, mais l'air de rien, même des gens qui étaient pas forcément intéressés par le jeu de base, en fait, à force de tout le temps en entendre parler sans relâche pendant 2 semaines, 3 semaines, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce jeu, tu vois?
Et puis, bon, faut quand même reconnaître une chose. Blizzard, on peut penser ce qu'on veut du studio, en termes de finition, le jeu, il sort nickel.
Ouais, il y a quelques petits équilibrages qui vont être faits dans les prochaines semaines, mais sinon, franchement, le jeu est nickel de ce point de vue-là.
Voilà, quelque chose à ajouter, messieurs?
Non, on va peut-être passer à autre chose.
On va maintenant parler, mon cher Pixel.
Ouais.
De Dark Souls, premier du nom, qui revient d'entre les morts, en tout cas pour ce qui est de son multi.
Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des fans de Dark Souls 1 qui ont décidé de créer ce qu'ils appellent le Global Restart Day, et qui a pour but, en fait, de ressusciter le multi en coopération, généralement, de Dark Souls 1. Parce que le multi de Dark Souls 1, sur console et surtout sur PC, ces dernières années, bah, avec la sortie de Dark Souls 2 et 3, bah, il est un petit peu, on va dire, en sommeil. Voilà, il n'y a plus beaucoup trop de monde sur les serveurs. Les serveurs existent toujours, hein, il n'y a pas de problème, ils tournent toujours. Il y a même encore des serveurs pour Demon's Souls sur PS3, donc c'est dire que ça fonctionne encore, même si le jeu Demon's Souls, il date de 2009, je crois, donc ça commence à faire pas mal d'années. Mais là, pour Dark Souls 1, ils se sont dit, bah tiens, on va créer une journée, le Global Restart Day, et tout le monde va faire, toutes les personnes qui possèdent Dark Souls 1, que ce soit sur PC, 360 et même sur Xbox One pour la version qui est rétrocompatible. Tout le monde va réinstaller le jeu, enfin surtout sur PC, recréer un perso niveau 1 à partir de 0, rester connecté tout le temps sur les serveurs online et mettre un maximum d'invocations, de signes d'invocation pour les autres joueurs, aider les autres joueurs contre les boss en coopération, histoire de faire revivre un peu le Dark Souls 1 comme s'il était Day One, quoi. Donc c'est ça le but. Et ça commence le 10 juin 2016, et ça tombe bien parce que aujourd'hui on enregistre, c'est le 10 juin 2016. Donc on a déjà les premiers retours, et les premiers retours sont bons. Parce que les mecs ont apparemment des stats, je sais pas comment ils les ont récupérés, mais ils ont des stats, et ils disent que les signes d'invocation sont en très forte hausse dès le premier jour. Donc ça marche bien, ça marche bien. Les gens rejouent au multi à Dark Souls 1.
J'ai envie de dire, c'est une belle preuve d'amour.
Pour un
non,
jeu aussi vieux.
Ce jeu, enfin, c'est une histoire d'amour, quoi. Enfin.
Oui.
Quand j'y pense, j'ai des étoiles plein les yeux, tu vois. Donc,
ouais.
Bon, moi, en l'occurrence, je pense pas que je le réinstallerai parce que ça fait quand même un an que j'y ai joué, tu vois. Donc, ça va. Enfin, disons que, en plus, je viens de finir le 3, donc voilà. Mais tu vois, si ça faisait genre 2-3 ans que j'y avais pas joué, je pense que là, tu vois, j'aurais installé direct. C'est un peu comme Deus Ex, tu vois. À chaque fois que quelqu'un en parle, quelqu'un le réinstalle.
Ah, mais en même temps, Dark Souls 1, il est tellement bon, quoi. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que imagine un mec qui découvre le jeu aujourd'hui, il se lance le jeu, il est pas au courant que tu vois il y a ce phénomène-là qui arrive et genre il se fait défier en duel. Eh hey, mais t'as dit de rester à tel niveau et toi t'as dépassé le niveau. Et, tu vois genre le mec genre il voulait être vénère contre lui. Alors que le mec il était là, il voulait juste faire sa partie pépère. Genre tu fais.
Ouais, bah, cela dit, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des griffeurs hein, quand même hein, sur Dark Souls. Des mecs avec zéro respect, il y en aura de toute façon.
Ah non mais ça c'est sûr.
Et puis bon, je veux dire ça fait partie du charme du multijoueur de Dark Souls aussi. Hein, parce que moi tu sais bon autant c'est sympa tu vois d'avoir des gars qui saluent et tout machin. Mais moi aussi moi j'aime bien aussi jouer contre les gars qui se comportent comme des grosses putes. Et qui viennent te poignarder par derrière. C'est ça qui
genre
fait
le mec qui est en train de parler au marchand, il vient te poignarder de quoi sans respect. Ouais, voilà. Mais ça fout les nerfs direct avant le combat quoi. T'as pas commencé le combat.
Ouais, mais tu vois, ça fait aussi partie des risques quand tu vas sur le multi de Dark Souls.
Moi, ce que je préfère, c'est les mecs qui jouent réglo, quoi. Ils arrivent, ils se présentent au moins une petite salutation, et puis après, on peut faire un duel d'homme à homme. Parce que les lâches, franchement, j'aime pas ça, quoi.
Ça fait partie du challenge. Moi, je considère ça, en fait. C'est, t'as une pute sur ton chemin, et tu dois
survivre. Ouais, mais enfin, je veux dire, là, t'en rigoles. Mais quand ça t'arrive sur le moment, tu rigoles pas comme ça, quoi.
Oui, oui, non, tu rigoles pas, mais après, enfin, je veux dire, oui, voilà, mais... c'est... Il y a plein de moments dans Dark Souls où tu rigoles pas, mais après, tu y retournes parce que t'es masochiste, mais...
C'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais en tout cas, l'initiative de refaire revivre un peu Dark Souls, le premier du nom pour les amoureux de la franchise, je trouve ça très bien. C'est un peu, tu sais, comme les Nintendo DS à Paris, tout ça, les gens ils se retrouvent, tout le monde joue ensemble, ouais. Ça donne une bonne image du jeu en plus, d'une certaine communauté, donc si ce genre d'événement peut se reproduire dans le futur, ça serait cool. Et comme toi, tu vois, Dark Souls, premier du nom, ça fait pas longtemps que je l'avais refait, là j'ai pas envie forcément de me relancer là-dedans, quoi. Surtout que j'ai bien faire le 3.
Mais par contre, tu vois, si vous n'avez pas encore fait Dark Souls 1, c'est le moment de le faire.
Mais tu vois, je serais pas surpris que ça soit un événement qui devienne annuel, en fait, au bout d'un moment.
Ouais, peut-être.
Ouais, pourquoi pas.
Et ça serait une très bonne
genre,
idée, je pense.
La journée Praise the Sun, tu vois. Genre tout le monde... parce qu'en fait, Praise the Sun, pour ceux qui connaissent pas, c'est une référence que beaucoup de joueurs de Dark Souls utilisent.
Le cri de rassemblement, Praise the Sun.
Voilà.
Bon, Pixel, toi qui es fan de Dark Souls 1, t'y retournes, là, ou...
Ah ouais, bah je vais le réinstaller, il y a pas de problème, je vais.
Non, mais avant tu dois faire Homefront The Revolution.
Oui, il faut que je le fasse.
S'il daigne terminer de s'installer.
Non, il s'est installé, ça va. Je le testerai pour la prochaine émission normalement si je l'ai fini.
Ouais, t'es force pas.
C'est les pas trop buggé.
On a hâte de voir ça. Alors des mauvais angles, ça se trouve il sera très bien. Allez, on va enchaîner mon cher Pixel justement. Alors là, c'est dans un tout autre registre, n'est-ce pas ? On va parler d'un jeu de survie dans l'univers de Conan.
Ouais, exactement. Ben, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une nouvelle que personne n'attendait, et je crois que personne n'aurait dû attendre, parce que Conan le Barbare, enfin les développeurs du MMO Conan le Barbare, qui était sorti il y a quelques années déjà, 2009 je crois, ou 2010, je ne sais plus trop, ont sorti une vidéo sur une version alpha ou pré-alpha, je ne sais plus, de Conan le Barbare en survival, en multi, avec un mode vue à la première personne et à la troisième personne, où tu pourras faire du craft, et construire ton château, et envahir le château des autres, et c'est à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant.
Encore un jeu de survie. Alors, pourquoi je voulais parler de cette news, en fait, parce que il se trouve que récemment, j'ai eu une idée un peu saugrenue, tu vois. J'ai décidé d'aller fouiller dans les tréfonds de l'Early Access pour essayer de repérer des projets intéressants, etc. Et à un moment donné, il y a un truc qui m'a fait péter un câble, c'est le nombre de jeux de survie, quoi. Mais arrêtez de nous casser les couilles avec les jeux de survie. J'en peux plus des jeux de survie, putain. T'as un système d'early access, tu n'as que ça, des jeux de survie. Et pourquoi t'as que des jeux de survie? Parce que t'en as un qui marche, qui s'appelle Ark. Parce que t'en as une trifouillée d'autres qui ont gagné de l'argent. Et là, maintenant, ça y est, tout le monde se lance dans les jeux de survie. Mais putain, arrêtez avec les jeux de survie, je n'en peux plus.
Bah, parce que c'est surtout Rust, en fait.
Moi, je pense surtout que c'est cyclique par rapport aux jeux vidéo, quoi. Au bout d'un moment, t'as eu le FPS qui a cartonné, donc tout le monde a fait son FPS.
T'as le MMO qui a cartonné, voilà. Enfin t'as WoW qui a cartonné, tout le monde.
C'est comme à l'époque dans les années 90, c'était le JRPG qui marchait, donc tout le monde fallait qu'il fasse son JRPG, quoi. Et le jeu vidéo c'est comme ça, c'est cyclique. Dès qu'il y a un truc qui va marcher, de toute façon, bah forcément ça va être copié. Tu vois, même un jeu dont on parlait tout à l'heure, Dark Souls, il a eu son petit succès d'estime, etc. Bah il y a beaucoup de studios et plus indépendants pour l'instant que de gros studios qui ont fait du Dark Souls, mais il y en a quand même, tu vois. Là ça m'étonne pas qu'il y a autant de jeux qui sont sur le mode survie, vu que comme tu l'as dit, bah il y a plein de jeux qui ont eu un plus ou moins grand succès, comme DayZ, Ark,
Rust.
Ouais, Rust. Il y a même des gens qui sont barrés avec la caisse, mais.
Mauren.
Ouais.
Notre spécialiste du jeu de survie.
Effectivement, moi sur la première partie du trailer, bon, il fait 1 minute 15. Alors si t'enlèves toute la merde promotionnelle, il doit faire moins d'une minute. Mais en gros, la première partie m'a vraiment fait penser à du Rust. La manière de se déplacer, le côté c'est assez laid, le côté c'est construction et tout. Par contre, quand j'ai vu la fin du trailer, je me suis dit, ça, je pense qu'il y a une communauté qui est capable de faire des roleplays sympas là-dessus. Parce que j'imagine tout à fait des serveurs de ce genre-là où tu vas avoir des mecs qui vont s'organiser en seigneur de guerre.
Mais qu'est-ce qui t'a fait dire sur la fin du trailer que ça...
Ben, je sais pas, c'est le côté combat, le côté bûcher sur une place avec des mecs crucifiés et tout. Je m'imagine ça, tu vois.
Conan, quoi.
Voilà, Conan, quoi. À mon avis, ça serait pas surprenant que ce jeu récupère un petit peu les assets du MMO.
Un peu petit peu beaucoup même.
Voilà, mais encore une fois, en fait, le truc, c'est qu'ils ont choisi le meilleur style de jeu pour faire une récupération d'assets, c'est qu'un jeu de survie, fondamentalement, le joueur, il s'en branle de la gueule que ça a, vu que c'est multijoueur. Et j'ai envie de dire, enfin, en dehors de Ark, et encore, faut le faire tourner, il n'y a pas grand-chose en termes de jeu de survie qui est à peu près joli. Hein.
Oui, et ça, plus le fait que... En dehors de Ark, il n'y a pas beaucoup de jeux de survie qui peuvent se vanter d'être à peu près finis, quoi.
Alors d'ailleurs, jeux de survie multijoueur, hein, parce qu'il y a des jeux de survie qui sont très jolis, mais qui sont solo. Je pense à The Long Dark, par exemple. Je pense à Don't Starve. Voilà, c'est des jeux qui ont une dimension de tout autre, en fait. Donc ça, c'est donc un jeu qui va sortir en Early Access bientôt. Est-ce que c'est un jeu qui va avoir les reins assez solides pour... déjà se vendre assez sur le début, mais continuer sur la longue traîne à garder ses joueurs et réussir à se sortir de l'early access, parce que ça, c'est pas dit, hein. Le nombre de jeux de survie qui sont en early access et qui le sont encore, voilà. Et pourtant, c'est des jeux qui sont bien vendus, hein. Rust, je crie ton nom.
Alors, cela dit, on parle de Funcom, je le rappelle. Ouais. Funcom. C'est un studio, si vous voulez. Je pense que l'Early Access a été inventé pour eux, en fait. C'est-à-dire que... En fait, Funcom, ils ont cette caractéristique de sortir des jeux totalement finis à la pisse. Pixel peut en témoigner, Edge of Conan. C'est le jeu, tu vois, il te vend du rêve les premières heures, puis après...
Ouais, les 20 premiers niveaux sont géniaux, et après c'est de la merde,
voilà,
jusqu'au
c'est
niveau
ça.
80.
Et en fait, Funcom a cette caractéristique bien à eux que les mecs sont les spécialistes du fait de sortir un jeu totalement fini à la pisse, et derrière ils vont te le finir, mais vraiment, ils vont te le finir. Le truc c'est que une fois que leur jeu est fini, bah il est super bien en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a plus personne qui joue. Donc c'est pour ça, tu vois, que je dis que l'early access est fait pour eux, parce que pour le coup, là, au moins, ils auront une excuse pour sortir un jeu qui est pas fini, tu vois. Mamie, est-ce que tu vas te lancer dans le créneau du jeu de survie?
Là, non.
c'est... Je pense que c'est un créneau qui est trop bouché, toi, quoi qu'il arrive, en fait.
La place est prise, quoi. Là, on est arrivé à un point en haut. Et à mon avis, ça durera pas encore des plombes, quoi.
Mais en fait, le truc, c'est que s'il y en a, c'est qu'il y a une demande. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand l'offre est pléthorique, la demande, elle se concentre uniquement sur des jeux phares qui ont la chance d'être backés par des youtubeurs ou des twitchers. Et pour le coup, les youtubeurs ou les twitchers, ils se concentrent sur vraiment une poignée de jeux, si c'est pas moins. Et donc, est-ce que c'est vraiment le bon plan de se lancer dans un jeu de survie maintenant? Je me demande si Funcom est pas en train de s'engouffrer dans une voie de garage, là. Même s'il y a Conan.
Oui, mais enfin, tu vois, il y a plein de jeux qui sont sortis récemment, enfin, qui sont sur ce créneau-là, qui font des ventes tout à fait correctes, hein, honnêtement. Parce que moi, je regarde les tops des ventes de Steam, hein, sur SimSpy. Franchement, vu le pognon qu'ils ont dû mettre dedans, c'est-à-dire pas grand-chose, moi, je pense que c'est rentabilisé. Après, il faut voir, hein, mais...
Ouais. En plus, ça, il y a la licence Conan, quand même, derrière, donc... Ark, c'est venu de nulle part, entre guillemets, et il a réussi à très bien se vendre. Là, Conan, il doit, je suppose qu'ils utilisent le nom de la licence, il doit y avoir quand même des fans à travers le monde. Et c'est pas rien, quoi.
Bah, regarde le MMO.
Ouais, enfin, le MMO, je sais pas s'il a marché ou pas, en fait.
La licence, ça fait pas de café, quoi, si tu veux. Encore une fois, le MMO, il était fini à la pisse. Autant ça marche en early access, ce genre de choses. Et je rappelle qu'à l'époque où il est sorti le MMO, les early access, c'était pas encore devenu une coutume, quoi, si tu veux. Ouais. C'était encore une époque où sortir des jeux pas finis, c'était mal vu, tu vois. Maintenant, c'est normal. Edge of Conan, c'était un jeu pas fini du tout, et c'est normal qu'il soit planté. Tu peux pas faire de la magie avec une licence, quoi, à un moment donné, non?
Même avec Conan, c'est dire.
Conan le barbare, tous les gens de notre époque, je pense que, voilà, on a déjà entendu parler une fois, au moins.
Ouais, mais
tu vois, les jeunes, déjà, je suis pas sûr.
Ouais, les jeunes, mais au moins, un public, déjà, qui peut backer le Kickstarter, oui, je pense.
Ouais. Oui. Ouais, mais en fait, tout le monde connaît, mais est-ce que tout le monde connaît au point de se dire il me faut ce jeu? Je suis pas sûr.
Je pense pas que c'est la licence ultime, tu vois. C'est pas comme si t'avais Star Wars,
ouais, bah...
ou le Seigneur des Anneaux, qui est un nom que voilà, c'est un truc dans la pop culture qui est partout. Conan, c'est un truc qui est vachement connu, mais ça a pas cette aura là je pense aussi. Après, vu que le MMO a eu un mauvais bouche à oreille, etc., peut-être que ça va leur faire une mauvaise pub aussi, tu vois.
Oh non, mais attends, ça fait des années, hein. C'est l'antéchrist, là, hein. C'est... J'ai oublié depuis le temps. Hein.
Si les gens ils voient que ça ressemble quand même un peu aux MMO, la même gueule avec les mêmes assets.
Non mais tu vois en plus Funcom, je pense qu'ils ont une certaine street cred auprès des fans de MMO par exemple, ouais. The Secret World que Mamie apprécie beaucoup ici, je crois.
Complètement. Ouais.
Voilà, qui est un des rares MMO qui a une vraie histoire, qui a des quêtes extrêmement bien écrites, paraît-il. Ils ont une super réputation avec ce jeu. Après, ils ont aussi une réputation de loser, mais ça, c'est un autre problème. Bon, messieurs, je vous propose de terminer, n'est-ce pas, avec le plat de résistance. ATH, on a eu des nouvelles du côté de Sony, je crois.
Alors oui, c'est André House qui nous a parlé de la PlayStation 4 Neo. Donc André House, c'est le grand Manitou de Sony Interactive Entertainment et qui a confirmé en fait l'existence de la PlayStation 4 au Financial Times. Et donc il a affirmé que la PlayStation 4 Neo était actuellement en cours de développement, mais qu'elle ne serait pas du tout présentée lors du salon américain qui est l'E3. Et il y a beaucoup de rumeurs en fait qui font écho que la PlayStation 4 Neo serait dévoilée lors du Tokyo Game Show. D'après les dires de André House, la PlayStation 4 Neo ne va pas remplacer en fait la PlayStation 4 actuelle. Les deux modèles vont continuer à cohabiter en magasin et ce sera une offre supplémentaire et haut de gamme pour les nouveaux joueurs et ceux qui veulent un matériel un peu plus performant.
Ouais, c'est bizarre, hein. Ils ont pas eu les couilles de le présenter à l'E3, ce truc, parce que je suis pas sûr que ce serait vachement bien accueilli, mais bref. Bon, vous connaissez ma position. La mise à jour des consoles, je vois pas l'intérêt, parce que l'intérêt d'une console, c'est justement d'avoir un hardware fixe. Alors maintenant, moi, je parle en tant que joueur. Mamie, je sais pas ce que t'en penses, toi, par exemple.
Le hardware fixe? Pour ceux qui développent des jeux, c'est tant mieux. C'est les constructeurs qui vont tirer la gueule si jamais c'est ça qui arrive. Mais pour le développement, c'est quand même mieux, ne serait-ce que parce que il y a une seule architecture et du coup ça faciliterait les développements et puis ça réduirait vachement les coûts. Mm-hmm. Puis pour les joueurs, c'est vrai que ce serait mieux comme ça. Puis ils ont une machine et puis après ils achètent tout là-dessus. Puis voilà.
Donc,
quoi.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça t'arrange pas du tout, toi, qu'on te sorte une PS4 tous les 3 ans.
Pas vraiment. En tant que consommateur, c'est chiant, parce que bon, j'ai pas acheté la première PS4, mais je me mets à la place de ceux qui l'ont fait, ils vont se sentir un peu floués. Et d'un point de vue développement, bah c'est pareil, je connais pas vraiment encore les problèmes liés à développement console, mais ça veut dire des nouveaux kits de développement, des nouveaux trucs à faire, et c'est vrai que ça doit être un peu fatigant pour développer tout ça, quoi.
Morane.
J'ai bien fait de pas acheter une PS4. Non, mais en fait le truc c'est que bon, on en parlera tout à l'heure avec Uncharted 4, mais concrètement en fait c'est tendancieux hein, de faire ce move là. Alors après, il faut pas qu'on en parle trop tôt parce que pour l'instant on n'en sait rien de cette console, on sait pas ce qu'elle va faire en plus.
Bah ça parle de 4K déjà. Hein,
ouais, enfin voilà, vous connaissez pas mon avis, mais concrètement la 4K j'en ai rien à branler. Et déjà, si les jeux pouvaient tourner en 1080 60 fps, ça serait cool, tu vois. Mais on connaissait aussi le cycle de fin de vie d'une console qui amenait en général des performances et des créations de bien plus grande envergure parce que justement les développeurs avaient appris à composer avec les capacités de la machine et savaient exactement comment en tirer jusqu'à la moelle en fait.
Ah oui, t'as qu'à regarder The Last of Us, GTA 5, voilà. Et ou même Halo 4 sur Xbox 360, ils étaient magnifiques.
Exactement. Et je pense que en sortant du nouveau hardware comme ça, certains développeurs vont devoir se concentrer sur la compatibilité entre les deux machines. Et du coup, repousser cette compréhension intime de la console à beaucoup plus tard, en fait. Et je trouve ça dommage.
Alors après, est-ce que ce genre de compréhension, justement, c'était pas réservé aux studios first party de Sony, les autres éditeurs ayant tendance à sortir leurs jeux sur tous les supports possibles imaginables, tu vois?
Ouais. Bah ouais, j'allais te rétorquer GTA V, mais GTA V, il a été développé...
partout.
Donc du coup, je me suis taclé moi-même. Donc j'ai rien à te répondre.
Ce qu'on peut dire, c'est que même les studios first party, justement, on n'aura plus ça, quoi, tu vois. C'est-à-dire que même eux, ils vont devoir penser leur jeu pour deux supports. Ce qu'ils ne devaient pas faire avant.
Ouais.
Pixel?
Ouais. Moi, j'ai deux choses à dire sur le fait que, sur son report et sur mes attentes sur la console. Alors, je vais d'abord commencer avec mes attentes. Et j'en ai que deux. La première, c'est que j'espère que cette PS4 Neo fera moins de bruit que la précédente. Parce que c'est entre guillemets pour ça que j'ai revendu il y a un an mon ancienne PS4. Parce qu'elle faisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. C'était vraiment un avion en réaction.
Pire que la PS3 oui. ou...
Ben, j'ai fait la PS3. C'était pas mal. J'ai eu la PS3 fat, quoi. Je faisais du bruit. La PS3 Slim, elle fait quand même beaucoup moins de bruit, donc c'est sympa. Bien plus sympa. Bon, pour la PS4, là, non, c'était pas possible, mais je l'ai revendu, entre autres, à cause de ça. Ça faisait vraiment trop de bruit. Mais ça faisait pas de bruit quand on était sur les... sur le menu de la console, mais après, dès qu'on lançait un jeu, tu sentais l'avion en réaction qui commençait à démarrer, là. C'était inaudible. C'était vraiment chiant pour moi. Donc, je l'ai revendu. Donc, j'espère que ça fera moins de bruit. Mais quand je dis moins de bruit, c'est genre équivalent à une PS3 Slim, par exemple. Vraiment avec un son très contenu, quoi.
Tu vois, moi, je la trouve déjà bruyante. Parce que moi, j'ai pas connu la vieille PS3, mais la PS3 Slim, ma PS3 Slim, donc j'ai connu que ça, je la trouve bruyante déjà de base. Alors si en plus la PS4 c'est plus bruyant que ça.
Ah ouais, la PS4 elle est plus bruyante que la PS3 Slim, je peux te le dire.
Personnellement, je trouve que ma PS3 Slim fait beaucoup plus de bruit que ma PS4.
Après, elle a peut-être pas le même âge.
Ouais, mais enfin je veux dire que à la base quoi. Et le pire, je crois que c'était la 360 quand il y avait pas la mise à jour où tu pouvais installer les jeux sur le disque dur. Et quand tu faisais tourner un jeu, c'était la catastrophe. L'été, je jouais, j'étais en sueur, tellement il faisait chaud dans la chambre. Non, franchement, en fait, c'est vrai que la PS4 a fait un peu de bruit. En fait, au début, elle a fait un petit bruit, genre à mouline. T'entends un vouf, mais après, il y a plus de bruit. C'est, pour moi, en tout cas, c'est qu'elle est calme, quoi.
Bon, est-ce que c'est la vraie préoccupation des acheteurs, à votre avis?
Non, mais je pense que, enfin, déjà pour moi qui ai une PS4, c'est que bah, les futurs jeux qui vont sortir sur la PS4 et la Neo. C'est pas que genre les jeux ils marchent sur la Neo, sur la PS4 ils tournent à 10 FPS, tu vois.
Bah genre ce qu'a fait Nintendo récemment avec le Zelda Musou là,
Hyrule Warrior.
Il tourne ouais bah qui tournait nickel sur la nouvelle DS, mais sur l'ancienne c'était une purge. Je dis rien et c'est Nintendo hein, je rappelle.
Ouais. Ça serait un énorme foutage de gueule de la part de Sony s'ils font ça. Et puis aussi que le genre ils sortent que des jeux exclusifs sur la PS4 Neo quoi. Parce que pour moi en fait la PS4 Neo je la considère vraiment comme une console qui va être là pour la VR et pas pour le jeu de base. Et s'ils font des trucs pour le PlayStation VR justement, bah ça c'est cool parce que tu pourrais pas le faire sur une PS4 classique. Mais si c'est vraiment des jeux qui devraient sortir à la base sur PS4 et qui ont été reportés pour être sortis ensuite que sur PS4 Neo afin d'en vendre un peu plus. Là, non, ça serait trop pour moi.
Pixel, tu avais d'autres attentes?
Oui. La deuxième attente, c'est qu'elle permette aux jeux qui sont sortis avant la PS4 Neo de se charger plus rapidement.
Ils ont dit que les développeurs pouvaient faire une mise à jour s'ils souhaitaient pour que ils puissent rendre ce genre de choses compatibles. Mais je pense qu'honnêtement, personne va le faire. À part,
s'ils pouvaient le faire sur Bloodborne, ATH, tu penses pas que...
Bah ouais, c'est justement Bloodborne que j'avais en tête parce que avant le patch, Salvateur, c'était une minute environ.
Non, quand même pas. C'était voilà. 40 secondes, pas.
Ah, si, bah, c'était quasiment, non, avant le patch.
Je l'ai fait Day One, Bloodborne.
Je peux t'assurer que moi, j'avais compté entre 50 secondes et une minute, quoi.
Après, messieurs, ça dépend peut-être de la console aussi, hein.
Ouais, j'espère qu'on arrivera en dessous des 10 secondes pour Bloodborne avec la PS4K ou je sais pas comment ils l'appelleront.
PS4
Neo. Ça sera pas Neo, ils vont pas le garder ce nom-là, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais bon, on n'est pas là pour débattre sur son futur nom, après tout, puisqu'on ne sait encore rien. Mais l'autre chose que je voulais dire sur son report, en fait, pour le fait qu'il soit pas à l'E3, bah, quand on y regarde du point de vue pognon égale fric, fric égale pognon, c'est normal. Parce que si tu te dis que à l'E3, il y a qui à part les journaleux de jeux vidéo? T'as les journalistes généralistes qui viennent des grandes chaînes de télévision du monde entier. Et donc, ils vont te faire un reportage sur l'E3. Ils auraient présenté la PS4 Neo à l'E3. Et bah, t'as toutes les chaînes généralistes, en France, par exemple, TF1, France Télévisions, tout ce que tu veux, ils vont faire leur reportage dessus, et ils vont diffuser, et ils vont dire qu'il y a une nouvelle PS4 qui va arriver, peut-être cette année, ou peut-être l'année prochaine.
Et qui va mettre à l'amende celle actuelle, donc ça va faire baisser les ventes, c'est ça?
Ça, ils le diront jamais, mais par contre, du coup, ça éclipserait le PlayStation VR. Mais à mon avis, c'est ça l'enjeu.
Mais tu vois, le Pékin Lambda qui va regarder ce reportage-là et qui voulait peut-être s'acheter une PS4 pour cette fin d'année, il va se dire « Ah bah non, je vais attendre puis je vais acheter la nouvelle. » Donc ça fait de l'argent moins pour Sony. Donc c'est normal qu'il la présente pas à l'E3.
Oh, mais déjà, depuis le début des rumeurs, ça a fortement chuté parce que les gens ont dit bah attends, s'il y en a une qui va sortir après, on va pas acheter une PS4 tout de suite quoi. Donc ça a commencé à baisser et là le problème c'est que le mec, je trouve ça con qu'il l'ait annoncé comme ça en fait.
Ouais, parce que là tu vois ça fait en cash en fait, tu sais. Voilà. Alors oui, on va en sortir une hein, mais on en parlera plus tard hein. Maintenant c'est le 3 hein, s'il vous plaît. Merci.
Voilà. Moi, je pense que ce serait logique du point de vue de Sony de la présenter au Tokyo Game Show parce qu'au Tokyo Game Show, les journalistes des chaînes de télé, ils sont pas là. À part les chaînes de télé japonaises. Mais les chaînes de télé occidentales, elles sont pas là au Japon, au Tokyo Game Show. Donc ils sont tranquilles.
C'est bon, messieurs, on peut...
Ouais, c'est bon.
On peut s'arrêter là.
Ouais. Oui.
Ben, on va passer au jeu du moment, DH. Tu ne vas pas t'éterniser, parce que même il y a un diplôme à les récupérer. On va maintenant parler d'une des grosses sorties de l'année, n'est-ce pas ? Et cette sortie, c'est Uncharted 4. I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. It took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. There's got to be another way. I need you on this one. Alors, Uncharted 4, quatrième épisode des aventures de Nathan Drake, qui, attention, spoiler, petit clin d'œil à la tête, n'est-ce pas, va retrouver son frère, qui va l'entraîner dans de nouvelles aventures. Et ma foi, TH, ces nouvelles aventures, est-ce que ça valait bien le coup tout ça? Parce que je rappelle quand même que Uncharted 3, moi, en tout cas la note que j'en avais retenue, c'est que les gens avaient l'air de dire que c'était un peu l'épisode de trop.
Ouais, non, donc, non, c'est vrai. Moi, je les ai tous faits. Je trouve le 1 et le 3 pas terribles, en fait. Le 1, il avait des problèmes partout, en fait. Que ce soit les doublages qui étaient nuls à chier, le gameplay encore pire que les autres. Enfin, il y avait beaucoup de problèmes et c'était une nouvelle licence, donc tu pouvais pardonner. Le problème du 3, c'est que c'était une redite du 2. Et même, c'était moins bien rythmé que le deuxième épisode, etc. Donc, tout le monde a dit, ouais, Uncharted 3, bah, c'est moins bien que le 2. Et surtout qu'en fait, le gros problème qui a vraiment gâché pour moi l'expérience du jeu, c'est que le service marketing de Naughty Dog avait balancé toutes les vidéos de gameplay des moments forts, quoi, qui étaient intéressants dans le jeu. Donc ce qui fait, quand tu joues au jeu, bah, tu vois le bateau qui coule, tu dis, mais attends, mais ça, je l'ai vu à l'E3. Et du coup, bah, t'as plus de surprise. Et c'est ça qui a plombé Uncharted 3. Là, ce qu'ils ont fait avec Uncharted 4, ils ont vraiment gardé les bons moments. Mais il faut savoir aussi que dans ce nouvel épisode, ça change un peu la donne par rapport aux anciens. T'as toujours le côté humoristique de Nathan Drake, mais on voit que l'approche scénaristique, elle est un peu plus tournée vers... ancrée plus dans le réel, si tu préfères. Et ça se sent que derrière, c'est le scénariste de The Last of Us, Neil Druckmann, qui a repris le flambeau parce que à la base, c'était Amy Henning, mais qui est parti en cours de route. Et là, tu vois bien que c'est plus du tout la même chose. Et en fait, le jeu, t'as vraiment une expérience cinématographique assez proche de ce qu'on pourrait voir au cinéma ou bien dans un film d'animation. Et ça, c'est un très bon point pour moi, en fait, dans ce nouvel épisode.
Alors, n'importe qui a vu les vidéos du jeu dira la même chose. C'est beau, d'accord. Mais est-ce que c'est le jeu tient ses promesses? C'est-à-dire qu'on nous a vendu plein de trailers, tu vois, où on te mettait des décors qui t'en mettaient plein la vue. Est-ce qu'on t'a montré le plus beau, tu vois, avant? Et au-delà d'être beau, est-ce que ça tourne, enfin, en termes de mécanique, ça tourne bien tout ça?
Bah alors ouais, c'est carrément une base graphique, quoi. Il y a quasiment aucune chute de framerate en plus quand tu joues, donc c'est appréciable. C'est du 30 FPS, mais au moins il est constant, tu vois. Après, t'as aussi la direction artistique du jeu, qui est en plus, elle aussi très belle, donc ça te fait doublement beau, si tu préfères. Parce que des fois, tu vas avoir des plans vraiment qui font très carte postale. Et ça, ça a toujours été une force de la série.
Est-ce qu'on voyage dans ce jeu ?
Ouais, bah c'est ça que j'apprécie le plus, vraiment, c'est l'aspect un peu exploration, découverte et tout ça. Tu vas arriver dans une nouvelle île, et t'as l'impression vraiment, quand tu joues à ce jeu-là, bah qu'il y a personne qui est passé avant toi depuis très très longtemps. J'ai vraiment l'impression, quand j'y vais, que je me dis, ouais, il y a pas beaucoup de gens qui seront y allés, tu vois. T'as le plaisir de la découverte qui est là. Et donc, pour moi, Uncharted 4 bah réussit son pari du côté, en tout cas, de ce qui est la base graphique, parce que je l'ai beaucoup comparé à The Order, mais The Order, le problème, c'est que c'était que un très beau jeu techniquement. Mais t'étais tout le temps dans des couloirs et t'avançais et puis le gameplay était chiant, etc. Donc ça allait pas du tout. Là, avec Uncharted 4, ce qui est bien, c'est que des fois, t'as des zones beaucoup plus ouvertes. Par exemple, comme on a pu voir lors du trailer de l'E3, tu sais, à Madagascar, quand il se balade dans sa Jeep et tout ça, bah là, c'est vraiment toi qui conduis, que tu vas où tu veux, tu peux explorer ce que tu veux. En fait, ça fait des petites zones fermées, et Naughty Dog, ils sont très forts parce que ils trichent, en fait, à chaque fois avec le joueur. Ils te mettent à chaque fois des semi-zones ouvertes, mais ça va à chaque fois des astuces qui sont trouvées par-ci par-là pour te faire croire que t'es vraiment sur une map gigantesque, alors qu'en fait, pas du tout.
Mais par exemple, tu vois, on va attaquer le gameplay, et moi, par exemple, je connais des gens qui reprochent à Uncharted d'avoir des gunfights chiants.
Ouais, moi, je suis là.
Je confirme.
Et du coup, ben, ça donne quoi ce quatrième épisode ? Est-ce que les gens qui trouvaient ça chiant avant, est-ce qu'il y a du mieux, ou est-ce que c'est pas cet épisode clairement qui vous réconciliera avec
la série ? Déjà, je pense pas que ça va être l'épisode qui va réconcilier les gens avec la série, mais il y a du mieux, quoi, ça s'améliore, si tu préfères. Parce que moi, en fait, le problème que je trouvais avant dans les anciennes Uncharted, c'était que quand je tirais avec les armes à feu, j'avais l'impression de tirer avec des pistolets à billes. J'avais pas de sensation manette en main.
T'avais pas de feedback.
Voilà, quoi, exactement. Tu vois, c'est pas comme le vrai TPS bien bourrin, comme un Gear of War, où là, t'as vraiment des bonnes sensations, mais le jeu est construit vraiment tout autour du TPS. Là, tu sens que le TPS, c'est une option supplémentaire qui a été ajoutée au jeu. Les armes à feu ont un peu plus de patates, et dans cette Uncharted 4, bah le problème c'est que les ennemis sont toujours aussi bêtes qu'avant, tu vois, ils te foncent dessus, ils essayent de te déloger d'un trou en te balançant des grenades, ce genre de choses là, mais ils sont cons quand même, tu vois, ils font la queue leu leu et ils se font aligner. Pour moi, c'est pas le point fort d'Uncharted, et clairement ça le restera jamais. Donc
mais justement, est-ce que tu penses pas que c'est volontaire de la part des développeurs, en ce sens que Uncharted, comme tu le dis, c'est une expérience qui est très cinématographique. Si on te fait un jeu qui est difficile, tu vois, bah finalement tu vas couper la mise en scène, tu seras plus dans Indiana Jones, en fait tu vas recommencer en certains passages en boucle, et finalement tu verras plus tout le côté spectaculaire du jeu qui est finalement ce que te vend Uncharted, quoi.
C'est clairement du Indiana Jones en jeu vidéo, mais en fait il propose quand même un challenge, hein. On peut se dire, ouais, c'est un jeu grand public, donc c'est simple. Non, le jeu, il est simple si tu le mets en facile. À partir de normal, tu commences à avoir un petit challenge. Ouais. En difficile, le challenge commence à devenir assez costaud. Et quand tu le mets en extrême, bah, il y a franchement, déjà, les gens qui jouent en extrême, je comprends pas, quoi. C'est un peu détaré. Tu vois, on dit que Dark Souls, c'est difficile, mais là, mettre le jeu en extrême, tu te fais sniper, enfin, les mecs, ils te voient à travers les murs. C'est injouable.
C'est un mauvais mode difficile.
Voilà.
Ça.
C'est un mauvais mode difficile. Et tout ce qui est en fait aspect TPS, tu sens que c'est mis en retrait par rapport aux anciens Uncharted. Le jeu te laisse pratiquement, on va dire, à 80% le choix de ton approche. C'est-à-dire que tu peux jouer en mode infiltration. Et quand tu joues en mode infiltration, en fait, moi, je trouve ça beaucoup plus cool que d'y jouer en mode FPS bourrin. Parce que le mode infiltration, bah, tu passes derrière les ennemis, etc. Et c'est une infiltration vraiment très simple, hein. C'est-à-dire les ennemis, soit ils te voient, soit ils te voient pas. Tu vois, c'est pas genre, il y a une phase d'alerte, etc.
C'est pas MGS5.
Voilà, hein. C'est vraiment un truc simple, mais ça fonctionne. Donc, pour moi, cette Uncharted-là réussit son pari, en fait, à essayer de diversifier un peu son approche. Mais moi, je trouve que le jeu, en fait, par rapport aux anciens, il est beaucoup plus généreux dans ce qu'il propose. C'est-à-dire que si tu joues de manière furtif, bah, je trouve que t'es beaucoup plus récompensé par le jeu. Tu vas avoir plus de munitions et les utiliser vraiment à des moments où t'en auras vraiment besoin. Et puis même, le jeu sera beaucoup plus simple, en fait.
Ouais, mais justement, est-ce que du coup, quand tu la joues bourrin, y a pas une frustration, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont pas envie de faire de l'infiltration, que ça les saoule. Parce que par exemple, tu vois, je pense que jouer en bourrin dans MGS5, tu peux tirer un certain plaisir.
Bah comme je l'ai dit, ils savent très bien que les phases de gunfight sont un peu les moins réussies du jeu, donc ils les ont retirées. Et moi, je trouve ça pas plus mal, même si dans Uncharted, s'ils en font un autre un jour, même s'ils ont dit que c'était le dernier, on ne sait jamais. S'ils pouvaient enlever ces phases de gunfight, moi, je trouverais ça très très bien, en fait.
Oui, mais enfin, moi je trouve que c'est la facilité, tu vois. Ça, on sait pas faire des gunfights, donc on les retire. On cherche pas à s'améliorer, tu vois. Enfin, c'est un peu con comme approche, tu vois.
Non, mais c'est aussi parce que les jeux où t'as des armes à feu, t'en as tellement. Ils pourraient très bien faire un jeu ou d'aventure et d'exploration sans avoir besoin de tirer avec des armes à feu.
Ouais, mais est-ce que ça sera toujours Indiana Jones, parce que Indiana Jones, t'as toujours de l'action, tu vois. Enfin,
bah, je sais pas. Tu peux faire, je sais pas, un jeu avec le même jeu, mais sauf que à la place d'avoir des armes à feu, ils se combattent au corps à corps, je sais pas.
D'accord.
Après, enfin, parce que là, j'ai l'impression que le jeu, je suis en train de dire à tout le monde qu'il est mauvais tout ça, donc n'y jouez pas. Mais c'est pas ça que je suis en train de vous dire.
Bah, moi, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que c'est un bon jeu popcorn, quoi.
Bon, ça a toujours été le cas, ouais, pour les Uncharted, de
toute façon. Ça, on le savait même avant que le jeu sorte, quoi, si tu préfères. On savait que la série, c'était un jeu popcorn qui sortait à chaque fois et tu prenais ton pied en y jouant. Et là, c'est plus qu'un jeu popcorn, en fait, parce que t'as vraiment l'aspect popcorn qui est là, mais t'as aussi l'aspect découverte, exploration, qui est bien mise en scène, en fait, dans le jeu. T'as vraiment ce sentiment de voyage qui est présent, de découvrir des nouvelles choses, t'as l'impression que le jeu te prend pas trop pour un con avec ces phases-là. C'est-à-dire que tu vas apprendre des choses qui sont réelles, et en même temps t'as un peu de fiction qui vient s'ajouter à ça, et je trouve ça vraiment intéressant parce que le jeu, il est jamais là en train de te dire ouais, c'est un jeu, tu débranches ton cerveau et puis tu avances quoi. Non.
Ouais, mais tu vois par exemple, j'ai lu des critiques. Alors peut-être pas d'un point de vue scénario, mais par exemple, j'ai des gens qui trouvaient que justement, par contre, le jeu te prenait pour un con d'un point de vue gameplay. C'est-à-dire que les gens avaient vraiment le sentiment, si tu veux, que en fait tout était fait pour prendre le joueur par la main, quoi. Quand tu es dans les phases d'infiltration, les mecs ils voient pas ton pote, les phases de gun, enfin ça passe tout seul. Enfin moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en lisant certaines critiques.
Ouais, ouais mais c'est... ça a toujours été le cas dans les derniers jeux Naughty Dog. The Last of Us c'était pareil et ouais. Uncharted c'était pareil. C'est un reproche que tu peux faire si t'aimes pas la série. Donc dans ce cas-là, ne te tourne pas directement vers ce type de jeu-là.
En tout cas, il faut savoir que ce n'est pas cet épisode-là qui changera la donne à ce niveau-là, quoi. C'est pas un jeu fait pour vous, quoi qu'il arrive.
De toute façon, le jeu, tu peux y jouer avec quelqu'un qui n'aime pas les jeux vidéo à côté de toi. Il va prendre ça ouais. Comme s'il regardait un film ou bien une expérience. Et il va apprécier autant que toi, quasiment. Et il sera pas obligé de prendre la manette pour devoir se sortir de là. Mais Uncharted 4, là où ce qui enterre toute la concurrence pour moi, c'est déjà au niveau tout ce qui est graphisme, etc. Donc je vais pas revenir là-dessus. Mais c'est au niveau tout ce qui est dialogue, mise en scène. Dans le jeu, t'as les séquences waouh. Les séquences Michael Bay où tout va exploser, etc. Et ça, pour moi, c'est les meilleures séquences dans les Uncharted. C'est-à-dire, quand je joue Uncharted, je veux jouer pour avoir ces séquences-là. Quand t'as un bateau cool, quand tu escalades le train, ce genre de choses-là. Et ça, c'est des séquences qui sont, très bien scriptées, très bien mises en scène, très bien rythmées, et t'en prends plein la vue. Et moi, je kiffe vraiment ce genre de scène-là quand je joue Uncharted. Et dans Uncharted 4, il y a encore ce genre de séquences-là qui arrivent. Et je kiffe vraiment. Et s'il y en avait plus, je serais encore plus content parce que...
C'est pour ça que tu joues à Uncharted.
Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est par exemple aussi tout ce qui est au niveau des dialogues, mise en scène, etc. T'es presque jamais tout seul, en fait. T'as toujours des gens qui t'accompagnent, que ce soit le frère de Nathan, soit Sullivan. Et par exemple, au bout d'un moment, tu te balades comme ça en jeep dans la savane. Et les mecs sont en train de parler, ils sont en train de discuter entre eux. Toi, tu descends de la jeep, tu vas regarder un petit peu dans un temple abandonné, voir s'il n'y a pas un truc, etc. Et eux, en fait, quand tu es descendu de la jeep, ils se sont arrêtés de parler à ce moment-là. Ils ont dit « Ah, ok, tu nous abandonnes comme ça, toi. » Quand tu remontes, tu te dis « Excusez-moi, les mecs. » Et après, Sullivan va reprendre sa conversation, il va dire « Attendez, j'en étais où déjà ?» Ah oui, et il va reprendre exactement là où il s'est arrêté.
Il y a un souci du détail qui est bluffant.
Voilà, et moi je pense que vraiment, Uncharted 4, c'est la quintessence déjà de toute la série, et qu'ils arrivent vraiment à apporter ce truc en plus, quand tu y joues, tu te dis « Ah ouais, quand même, c'est vrai que niveau TPS, tout ça, ils sont pas trop forts, mais sur le reste, ils arrivent à mettre une claque à tout le monde.
» Cela dit, je tenais à souligner une chose, j'y avais une critique que j'avais eue, que j'avais trouvée assez pertinente, c'est quelqu'un qui disait que c'est quand même bizarre, Nathan Drake, c'est le mec tout gentil, tu vois.
Ouais.
Et il massacre des gens, mais à l'appel, quoi, c'est...
La dissonance ludonarrative.
Justement, il y a un succès dans le jeu qui s'appelle, dissonance ludonarrative, quand tu tues plus de 1000 personnes, quoi.
Ah oui, donc ça veut dire c'est carrément...
Ils en sont pleinement conscients,
ouais. Ils en sont pleinement conscients.
C'est assumé, quoi, si tu veux, dans le jeu.
On peut dire la même chose d'Indiana Jones, hein, j'ai envie de dire. Bon, ok, c'est des Allemands qui tuent, et effectivement, les Allemands, on peut dire que au cinéma, il y a licence to kill, quoi. Mais,
c'est pas grave si c'est des Allemands.
Oui, désolé. Voilà, non, mais, voilà, c'est des nazis, hein, c'est pas grave, hein, on peut les tuer, il y a pas de problème, ils ont pas de famille, ils ont pas de sentiments, c'est des nazis, quoi, tu vois.
C'est exactement la même chose, mais d'ailleurs, moi, je rigole parce que, après, si tu cherches les incohérences, tu vas en trouver partout, parce qu'au bout d'un moment, il y a Nathan et son frère qui en jouent un ennemi, et en gros ils se font braquer par un autre et puis au bout d'un moment l'autre il dit ouais allez-y tirez sur lui il aura jamais les couilles de tirer sur la personne quoi en gros alors que les mecs ils viennent de buter tous ces soldats juste avant tu vois Nathan Drake c'est un putain de meurtrier mais le mec il dit il aura pas les couilles de tirer parce que genre c'est un personnage important donc il pourra pas la tuer le mec il est beau gosse il rigole tout le temps il fait toujours la petite blague qui va bien mais en fait le mec il est pire que Dexter quoi dans ce cas-là tu vois le mec tu peux pas savoir que c'est un putain de ouf
soit dit en passant je tiens quand même à souligner que mis à part si tu joues à un jeu comme Spec Ops The Line qui te met le nez dans ta propre merde, j'ai tendance à penser que dans le jeu vidéo, quand tu tues des gens, tu t'en rends pas compte, en fait.
C'est pareil comme au cinéma, quoi. Enfin, je veux dire...
Voilà, non, mais c'est ça.
C'est un objectif comme un autre, en fait.
Voilà, et moi, c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec cet argumentaire, parce que je pense que la plupart des joueurs s'en foutent complètement de tuer des gens, quoi.
Mais c'est comme...
Vraiment, mis à part si tu tombes sur Spec Ops The Line, qui, lui, pour le coup... te fait comprendre au bout d'un moment que mec t'as tué des gens là quand même hein t'as tué des gens, c'est grave, tu vois. Mis à part si tu fais ça, et que le jeu était pensé pour ça, les joueurs s'en battent les couilles, mais grave, quoi.
Ah non, mais moi, je vais dire la vérité, quand je tire sur un ennemi, pour moi, dans Uncharted 4, c'est un pixel, quoi. C'est comme si je tirais sur une cible, tu vois, dans un stand de tir. C'est pas vraiment, je dis pas, oh, putain, j'ai tué un humain. Tu vois, c'est comme quand tu regardes Die Hard, le mec qui à la fin du film, il a buté je sais pas combien de mecs. Mais tu t'en fous, tu vois, le mec il est cool, quoi, c'est un super flic.
Il est sympa, c'est Bruce Willis, ouais.
Il
est gentil.
Voilà, il fume sa clope, il a le sourire, tu vois, tu dis, ah ouais, mais lui c'est un mec cool, mais en fait, non, en vrai, un mec comme ça c'est un enfoiré.
Voilà. Dans tous les cas, mon cher ATH, j'ai l'impression que t'as passé un super moment, que c'est un jeu qui en met plein la vue, c'est un jeu qui fait voyager. C'est un jeu qui donne la banane, en fait.
Ouais, en fait, c'est le jeu, il fait plaisir parce que avec ses décors, etc. Mais il y a aussi une critique que j'ai beaucoup entendue moi sur cette Uncharted 4, qui a pas été fait par rapport aux autres. C'est justement le rythme du jeu. Les gens le trouvent beaucoup trop mou, etc.
Ah oui, j'ai vu ça aussi.
Mais moi, j'ai kiffé en fait le rythme du jeu. À part au bout d'un moment, c'est vrai que vers le milieu du jeu, je trouve que ça s'étire un petit peu. Mais genre les gens ont beaucoup critiqué le début parce qu'ils disaient que ça se mettait trop longtemps à se mettre en place, etc. Moi, j'ai pas vu ça du tout. J'ai bien apprécié le fait que tu découvres un Nathan qui est un peu à la retraite, entre guillemets, parce que maintenant il travaille de manière légale, tu vois, c'est un mec réglo, et il fait plus toutes ses aventures comme il pouvait le faire auparavant, donc il a une vie beaucoup moins dangereuse. Et donc, c'est sûr que ça met un peu de temps. Mais, moi, j'ai bien apprécié, c'est vrai que, mais juste au bout d'un moment, voilà, quand ils remettent des flashbacks, alors que t'approches du dénouement final, j'ai trouvé ça un petit peu lourd. Mais j'ai trouvé que le rythme du jeu, en fait, si tu veux, était bien construit par rapport à ça, pour ceux qui aiment bien se laisser emporter par une histoire.
La condition, en fait, c'est se laisser prendre par la main par l'histoire, quoi.
Ouais,
en fait.
Mais de toute façon, le jeu, il faut accepter de se laisser prendre par la main, tu vois. Uncharted 4, c'est pas du tout Dark Souls, quoi. Par exemple, quand tu vas être un peu perdu, tout ça, bah tu vas avoir une touche qui va te montrer, par exemple, la touche L3 pour voir une astuce pour prendre ton prochain chemin. Enfin, t'es jamais perdu, tu vois. À chaque fois, t'auras toujours une aide, le jeu va toujours te prendre par la main. Je pense que c'est le jeu qui est fait pour... plaire au plus grand public et aussi en même temps aux joueurs qui veulent avoir une petite partie détente entre deux gros jeux, tu vois. Et sur tout ce qu'il fait là-dessus, il fait bien. Mais il y avait juste un petit reproche que je voulais faire, moi, par rapport aux anciens Uncharted, il y avait un truc que je préférais, c'est qu'on a un peu moins le côté fantastique qui est présent. Il est un peu moins présent dans celui-là que dans les anciens. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que tu vois, dans les anciens, t'avais toujours un petit truc vers la fin, mystérieux, etc. Et là, tu sens que le mec, il a voulu être peut-être trop sérieux dans son approche, en fait, d'Uncharted.
Bah, j'ai envie de dire, en fait, t'as perdu la patte d'Amy Hennig, parce que Amy Hennig, c'est ça, enfin...
Ouais, tu l'as perdu, mais enfin, tu l'as perdu, mais pas dans l'approche du personnage, quoi. Le personnage est toujours, si tu veux, il est toujours aussi marrant, il a toujours son côté un petit peu foufou, son côté Pierre Richard, mais tu sens que, voilà, le scénario, au bout d'un moment, genre, ce qui se passe, c'est grave, quoi, alors que, non, on joue à Uncharted, bordel. Tu vois, on joue à Uncharted, donc, c'est vrai que tu sens que Amy Hennig manque un petit peu de ce côté-là, mais pour conclure, c'est un très bon jeu, mis à part les phases de TPS qui sont un petit peu ratées, que vos alliés soient invisibles, etc., des petits problèmes de script par-ci par-là, mais sinon, après tout le reste qu'il fait, bah, en fait, c'est un très beau jeu qui a un très beau emballage, et qui prend aussi par la main, il faut se laisser prendre par la main pour apprécier ce genre d'expérience, mais sinon, il fait très bien, voilà.
Ok. Bon, messieurs, on va laisser mamie aller récupérer son diplôme, n'est-ce pas? Félicitations, mamie, d'ailleurs.
Allez,
félicitations. On est tous très fiers de toi, mamie.
Ah, bah ça.
Bon, ça y est, tu rentres bientôt dans le monde du travail.
Ouais, une fois qu'on me laisse entrer, c'est parti.
Oui. Fais gaffe, des fois, on a tendance à vouloir en ressortir, hein. Attention.
Ouais.
Bon, allez, messieurs, on se donne rendez-vous, la semaine prochaine pour le débrief de l'E3, je pense. Peut-être y aura-t-il un direct, je ne sais pas. Je me tâte encore pour les conférences, tout ça. On va voir. Allez, ciao tout le monde.
Salut.
Salut tout le monde.
Salut.